10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Et l'imam Abdelali Mamoun qui est arrivé, alors on l'a passé au gel ce matin. L'imam Abdelali, comment allez-vous, imam Abdelali Mamoun?
Bonjour Philippe, salamu alaykoum wa rahmatoullahi. Bonjour maître Serhan qui reste avec nous, c'est un honneur que tu nous comptes.
Ben ça me fait plaisir, l'honneur est pour moi.
Non, ça me fait plaisir. C'est moi qui est honoré, d'homme de loi, qui reste avec nous.
Surtout que maître Serhan est très intéressé parce que vous allez aborder une question qui lui...
C'est pour ça que je suis resté.
Et voilà, qu'il aborde lui, sous l'aspect juridique d'ailleurs.
Tu connais l'article 433-21 du code pénal? Pour moi, cet article-là, il devrait être viré. Il ne devrait pas exister. Même si je pense qu'il a une utilité, mais je crois que pour moi, il y a intrusion aux règles de la laïcité
L'article?
C'est l'article qui interdit aux ministres du culte, au sens large du terme, c'est ce qu'on appelle les cadres religieux, de célébrer des mariages religieux avant le mariage civil.
C'est interdit en France.
C'est ce que je viens de dire. Ouais. C'est le code pénal qui condamne à 6 mois de prison et 7 500 € d'amende. Il condamne pas le couple, il condamne le ministre du culte, c'est-à-dire le cadre, c'est-à-dire le curé, le rabbin, l'imam, le pasteur, l'homme de religion. S'il célèbre un mariage religieux avant le mariage civil, il est passible de 6 mois de prison et 7 500 € d'amende.
Est-ce que concrètement...
Et ça, malheureusement, les musulmans, ils comprennent pas ça.
C'est est-ce que concrètement, ça se passe souvent?
Ça arrive. J'ai eu des imams qui ont été mis en examen. L'imam de Meaux, l'imam d'Orléans, j'en connais deux, qui ont été poursuivis par la procureure, qui avait constaté, parce que, attention, l'article de loi, là, précise que il faut que ça soit prouvé comme étant une pratique habituelle. Il faut que ça soit pas une fois occasionnelle.
Oui, que ce soit régulier.
Que ça soit régulier. Et donc, il faut qu'elle prouve qu'il y a eu plusieurs mariages célébrés par cet imam-là, et donc qui justifie la poursuite et la condamnation. Ça finit souvent par des avertissements. Puisque souvent, après une garde à vue de 24 heures, l'imam, il prend un bon coup dans la figure, puisqu'il est tout de suite arrêté par la police, il est mis en garde à vue. Lors de cette garde à vue qu'il est poursuivi.
Dit comme ça, ça semble violent. Bon, on lui saute pas dessus et on le prend pas par les cheveux pour le placer en garde à vue.
Mais on lui met des menottes.
Oui,
je te promets, menottes.
Non, mais après, tout dépend de... tout dépend du quoi. Bah, si c'est un imam qui est un peu excité.
Non, il n'est pas excité. On lui dit, monsieur, vous êtes en état d'arrestation, tournez-vous, on vous met les menottes et ils le mettent dans la voiture, ils le ramènent au commissariat dans la prison. Ensuite, il est convoqué au bureau pour lui expliquer pourquoi il est là. Et on lui dit, monsieur, vous avez célébré, voilà, nous avons tout en témoignage que vous avez. Et le problème, c'est quoi? C'est que des musulmans t'appellent, moi, ils m'appellent, moi, en tant qu'imam. Je leur dis, est-ce que vous avez fait le mariage civil? Ils me disent non. Je dis, mais vous comprenez pas, vous me mettez en porte-à-faux, je me retrouve en difficulté, moi.
C'est exactement ça.
Je dis, ouais, mais c'est la loi de Dieu avant la loi des hommes. Ouais. Oh la vache, celle-là. Celle-là, franchement, elle me tombe dessus comme un marteau sur l'enclume.
C'est fatigant d'entendre cette argumentation, moi, me fatigue. Encore une fois, on a le droit de ne pas accepter.
Je te promets, il y en a même un qui m'a dit à la fin, c'est pas grave, si vous allez en prison, je vous apporterai des oranges.
Wallah,
il m'a dit ça, le gars.
Si c'est des bonnes oranges.
Je te promets, comment je vais rentrer dedans derrière, j'étais méchant.
Voilà,
je suis devenu méchant.
Qu'on peut répondre à ça? Méchant. Mais ça, c'est la fois de sens, je répondais.
Les gens comme ça, il faut être méchant après. Il dit, toi, pour que tu puisses, excuse-moi l'expression, jouir de ton. Du plaisir sexuel.
Dans tous les sens du terme.
Oh non. Voilà. Dans tous les sens du terme, si tu veux. Toi, tu me mets en péril. Tu me mets en situation où je risque la prison pour ton petit. Pour ton petit
coup,
plaisir.
Metteran.
Moi, je disais, la traduction.
On a changé d'émission. On a changé d'émission.
C'est pas grave.
Dans l'émission de l'imam, il y a des mots qu'on ne prononce pas.
Al-Shaitan, c'est vrai. Non, mais il a raison.
C'est pas grave, il a le droit.
Chez Adil Farkan, vous pouvez. Mais pas chez l'imam.
Philippe, attention à ce que vous avancez, cher
attention,
Philippe.
Attention, Philippe, ce qui est incroyable.
Attention.
Philippe, ce que tu sais pas, c'est que dans le Coran, tous ces mots que l'on considère comme étant aujourd'hui tabous, qu'on peut pas prononcer, beaucoup d'entre eux sont cités dans le Coran sans aucune.
Sans aucune pudeur?
Non, Dieu, il dit la haya fi din. Et ceux qui ont des sexes préservés. Fourouj, pluriel de farge, qui veut dire le sexe. Un sexe préservé. Il préserve son sexe. Quand il dit ou quelqu'un parmi vous vient, je dis le mot, caca. Il vient du caca. C'est-à-dire, il est parti faire caca. C'est dans le Coran. Le mot ra est en arabe, signifie aller faire caca. Walam tajidou ma'an, que vous ne trouviez pas d'eau, fatayammamou, vous pouvez pratiquer.
Et là, on ne dit pas à chèque.
Hein?
On ne dit pas à chèque. Échec. Échec.
Bon,
maître, c'est.
Échec. Ah,
échec. Oui, enfin, faites pas comme ça, vous n'avez pas compris.
Je te promets, j'avais pas compris.
Ah, non, non, bah, attendez, alors là, non.
Échec, c'est quoi, c'est échec?
Un chèque sans provision.
Avec le ha, moi.
Ah, il le fait exprès.
Pourtant, on m'a dit de que tu as bien prononcé le mot Mohamed. Donc, c'est bien. Donc, continue comme ça dans ton élan. Le ha, c'est hachak. Ça veut dire.
C'est la honte, quoi.
Non, ça veut dire tout le respect que je te dois. C'est-à-dire.
Oui, ça, on sent un mot disant avec tout le respect que je te dois, voilà. Je m'autorise à dire
à
ça.
À te dire
voilà.
ce mot-là qui est vulgaire.
Ouais. Bon, on va commencer par les questions d'auditrices et d'auditeurs. Hein. Vous pourrez d'ailleurs en poser au 01 53 48 3000. Avec. C'est un auditeur qui est venu vous voir, Imam Abdelali, mm-hmm. qui vous demande, puisqu'il a consommé des relations avec sa fiancée. Elle est tombée enceinte et il demande si ils peuvent se marier et si oui, dans quelles conditions.
Énormément de gens m'appellent pour me poser cette question et il était important que on puisse bien expliciter à toutes celles et tous ceux qui ont besoin de savoir ce qu'il en est. Et pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est, faut le reconnaître, un tabou mais qui est une réalité. La plupart des gens ou des jeunes qui
sur
veulent
le terrain
se marier,
aujourd'hui,
ils sont pressés. Ils n'attendent pas et parce que les contraintes aussi, faut comprendre, normal. C'est que un mariage, c'est beaucoup de contraintes. C'est l'un traiteur, la salle, le DJ, voilà, c'est qu'il faut les invitations et donc ça demande énormément de temps de préparation et c'est très coûteux. Donc le temps qu'on ramasse l'argent, qu'on organise tout ça, c'est souvent au moins un an après que le couple ait déjà décidé de vouloir se marier. Donc c'est que déjà, ils sont déjà en ébullition, ils ont envie déjà de consommer, mais ils espèrent pouvoir consommer dans le halal. Ils espèrent consommer dans le halal. Sauf que, ils peuvent pas attendre, ils n'y arrivent pas, et à un moment donné, ils succombent. Et ils consomment d'une relation parce qu'ils ont trouvé l'opportunité de le faire parce qu'ils sont sortis ensemble, ils ont été voyager ensemble.
Donc techniquement, Imam Abdelali, est-ce que une fois que c'est fait, il est possible d'avoir un mariage donc là religieux, j'imagine, ou pas?
Alors en principe, l'islam dit que tout enfant qui a été conçu hors mariage ne doit porter le nom que de la mère et peut pas être reconnu par le père. Ça, c'est la règle ancestrale, celle qui vient des savants d'avant. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas les moyens de s'assurer du lien de paternité du père. Aujourd'hui, nous avons des avis contemporains. C'est une des fameuses réformes contemporaines qui est réelle et qui est authentique et que tout le monde personne ne conteste. Hein. C'est que si aucun autre homme, aucun père vient contester ce qu'il y a dans le ventre, la paternité de l'enfant qui est dans le ventre de cette femme-là, eh bien, il a le droit de reconnaître le lien de paternité. La question qui se pose aussi, c'est est-ce qu'ils doivent procéder à une séparation qui consiste à ce qu'on appelle en arabe l'istibra, distinguer de ce qui va être halal après, de ce qui était haram avant. Voilà, distinguer le haram du moment haram au moment halal par une période de viduité. Certains savants parlent de 3 cycles menstruels, donc 3 mois environ, et d'autres parlent de un seul mois ou d'une période de cycle menstruel, ce qu'on appelle istibra min az-zina. D'autres, là encore, des savants contemporains se disent. Voilà, nous avons un hadith qui dit quoi? Qui dit qu'il n'est pas autorisé à l'un d'entre vous d'arroser la semence de son frère. Ça veut dire que si une femme est enceinte d'un homme, il ne peut pas y avoir un autre homme qui vient se demander la main de cette femme-là alors qu'elle est enceinte du précédent. Hein? Donc arroser la semence, c'est une métaphore, hein? Arroser la semence n'est pas autorisé. Mais en cas contraire, c'est-à-dire que ce qu'on appelle en arabe la règle linguistique qu'on appelle mafhoum al-mukhalafa, qui consiste à dire puisqu'il n'est pas interdit d'arroser la semence de son frère, j'ai le droit d'arroser ma semence. C'est-à-dire que si c'est moi qui ai mis enceinte la femme, j'ai le droit d'arroser ma semence.
C'était ma question, Imam Abdelali.
Oui, mais je t'explique, Philippe. Oui, écoute bien. C'est très important ce que je dis. S'il n'est pas autorisé d'arroser la semence de mon frère, les ulama, les savants ont dit, il est autorisé que moi, j'arrose la mienne, tout simplement. Et que si cette femme-là est enceinte de moi, je peux donc, de ce fait, me marier avec elle, consommer alors qu'elle est enceinte de moi. Et que ce bébé qu'elle a dans le ventre, cette semence qu'elle a que je vais lui mettre, eh bien, arrose ma semence à moi et non pas celle de quelqu'un d'autre.
Donc, sans période de viduité.
Voilà, sans période de viduité, immédiatement on les marie.
Mariage et ça, c'est souvent le cas. Mariage religieux.
Alors mariage, moi je vous parle de mariage religieux. Hein, on parlait tout à l'heure du mariage civil, effectivement, ça c'est la loi. La loi française impose que tout mariage religieux ne peut être célébré par l'imam. Attention, hein, c'est l'imam qui est en infraction, le curé ou le rabbin ou le ministre du culte qui est en infraction s'il célèbre le mariage religieux avant le mariage civil. Mais là, on parle de mariage religieux. Le mariage religieux, dans l'absolu, qu'il y ait eu mariage civil ou pas. S'il y a eu un mariage religieux, eh bien, et que la femme est enceinte d'un autre homme, eh bien, ce mariage n'est pas valable. Il est caduque. Est-ce que je suis clair? C'est-à-dire qu'une femme, si elle tombe enceinte d'un homme et qu'elle souhaite se marier avec un autre homme, elle ne peut le faire que seulement après l'accouchement. Puisque là, l'homme qui va venir se marier avec elle va arroser la semence de son frère, d'une autre personne. Et ça, ça n'est pas autorisé. Donc les savants en ont conclu qu'il est autorisé que si un couple a eu des relations, ont vécu ensemble longtemps, par exemple, avant le mariage, et ils ont décidé de ce qu'on appelle pratiquer la taouba, le repentir, et régulariser la situation vis-à-vis de Dieu et décide de se marier civilement, religieusement, comme tu dis, eh bien, est-ce qu'il y a une nécessité de s'assurer d'une séparation des corps de 3 mois? Moi, je me dis, mais va aller où le monsieur ou la dame? Ils vont se séparer, ils ont peut-être déjà des enfants ensemble, ils vivent déjà sous le même toit depuis des années, et toi, tu vas leur dire, monsieur, dégage, il faut que tu pars 3 mois avant de revenir pour pouvoir faire un mariage religieux. C'est complètement absurde, ça n'a ni queue ni sens, ni rien, ça n'a aucun sens, puisque, en principe, la séparation permet non pas de distinguer le haram du halal, mais de distinguer s'il y a eu une autre semence qui pourrait se confondre avec la tienne. Et là, il n'y a pas confusion, puisque c'est le même homme avec qui elle va se marier. Donc, encourageons le mariage immédiatement et encourageons la sutra. Je rappelle que cet avis-là est l'avis de l'école Shafi'ite et de l'école Hanafite, et de Ibn al-Mundhir et de plein d'autres savants qui encouragent la sutra, c'est-à-dire le fait de dissimuler le péché et qu'ils n'ont de compte à rendre qu'à Dieu. Et les hommes, les humains, c'est-à-dire la société, n'a pas besoin de savoir ce qui se passe dans la vie privée, dans l'intimité des gens. Non, il y a même des savants qui disent non, il faut non seulement qu'ils se séparent, mais en plus on doit annoncer à tout le monde que les enfants là, c'est des bâtards entre guillemets. Excusez-moi l'expression, c'est un peu vulgaire, mais c'est ça. Aoulad al-haram.
Ce sont des enfants nés hors mariage.
Et on appelle ça, attention, dans le terme arabe, c'est aoulad al-haram, les enfants du péché. Les enfants du haram, en français, dans un mot bien de chez nous, c'est le mot que je viens de citer. Je ne répéterai pas. Et donc, à partir de là, je trouve ça, moi, absurde. Ça n'a aucun sens. Le gamin, quelle faute il a commise? Il est innocent, lui. Pourquoi, lui, toute sa vie, il devra porter sur son front une étiquette estampillée au lieu de haram, fils du péché, ou le mot que j'ai dit tout à l'heure commence par un B. Donc le gamin, on n'a pas le dévoiler et à voilà et à faire en sorte
on l'affiche pas.
On l'affiche pas. En plus, il a rien fait, le pauvre. C'est ses parents qui ont commis le péché avant. Voilà, donc haram alina de faire ce genre de choses et d'exposer cet enfant-là qui naît sous X, hein, selon la règle ancestrale, donc sans père, alors que son père on le connaît. Il est même marié avec sa mère et il a même conçu des frères. Eh bien, pour ces savants-là, ce ne seront que ses demi-frères. Mais qu'est-ce qui va dévoiler l'absurdité et l'hypocrisie de cet avis-là? C'est que, monsieur, imaginons que cette femme-là donne naissance à une fille. D'accord? Et que cette fille-là ait grandi. Puisque, messieurs, vous dites que le père, c'est pas son père. Puisqu'il a été conçu hors mariage. Et que cette fille-là doit naître sous X. Ça veut dire que lui, le père, il peut se marier avec cette fille. Puisque cette fille-là, oui, puisque ce n'est pas sa fille. Tu vois ce que je veux dire? Ou même son oncle, le frère de son frère à lui, il vient, il demande la main de sa nièce. Donc là, on est dans un inceste complètement hypocrite, qui consiste à dire que puisqu'il n'a pas été reconnu par l'état civil comme étant le père, eh bien, il n'est pas son père, et donc à partir du moment où c'est pas son père, eh bien, tout est autorisé en ce qui concerne une relation entre un homme et une femme qui n'est pas mahram, qui n'est pas membre de sa famille.
Alors, dans un instant, l'imam Abdelali Mamoun va répondre à toutes vos questions au 01 53 48 3000, c'est le numéro du standard de l'islam au présent, 01 53 48 3000.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Voilà, l'islam au présent jusqu'à 11h avec l'imam Abdelali Mamoun et puis vos questions au standard de l'islam au présent au 01 53 48 3000. Alors on a Abdel qui nous appelle, imam Abdelali. Abdel, bonjour et bienvenue.
Bonjour Philippe.
Bienvenue Abdel. Abdouman, ya akhi, Abdouman.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum salam. Est-ce que tu es Abdouman?
Abdel Yamin.
À Abdul Yamin ?
Non.
Il y a un problème là, Abdul Yamin, tu peux pas être Abdul Yamin.
Il y a un problème,
Pourquoi il peut pas être Abdul Yamin ?
Abd, ça veut dire serviteur ou esclave de. Et on doit mettre normalement le nom de Dieu derrière. Et Yamin, ça veut dire la droite. Il n'y a pas le nom de Dieu qui s'appelle Yamin. Je pense qu'il doit y avoir une mal transcription.
Ma mère, elle n'était pas illettrée, elle parlait que le français, elle ne connaissait pas l'arabe. Elle a vu son père, il est venu dans un rêve, elle a dit tu vas avoir un garçon, tu vas l'appeler Abdel Yamin. Et donc, du coup,
ça doit être Abdel Hamid, peut-être, Abdel Hamid, peut-être, non ?
Ah non, Abdel Yamin, avec Y-A-S-S-S-S.
Ouais, non, mais c'est. Il faut que. Non, beaucoup de savants.
C'est peut-être une innovation.
Considèrent que ce genre de prénom.
Ça ne marche pas.
Non, il faut. Peut-être pas dans l'état civil, mais imposer aux gens de t'appeler autrement. Tu peux pas te faire appeler Abdel Yamin. Ah, l'Amin, si tu enlèves Abd, c'est bon. Tu es l'Amin, le digne de confiance. Al-Amin, ça veut dire Al-Amin, qui veut dire le digne de confiance, c'est un des noms du prophète. Mais faut pas mettre Abd devant. Faut pas mettre le serviteur ou l'esclave de. Voilà.
Exactement.
Moi, je m'appelle Abdel Ali. Al-Ali, c'est un des noms de Dieu. Al-Ali, qui veut dire le Logus, le Très-Haut. On le retrouve ce nom par exemple dans la Ayat al-Kursi, le verset du trône à la fin où Dieu dit dans le Coran wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Donc moi je m'appelle Abdul Ali. Voilà, ça c'est mon prénom. Et donc là c'est légitime parce qu'on parle d'être le serviteur du Très-Haut, de Dieu. Alors qu'Abdel Yamin ça va pas le faire. Il faut dire Al-Amin ou bien Abdel Hamid, où là tu choisis un nom de Dieu.
Mais peut-être que Abdel a une question à poser.
Allons-y, Abdel Hamid.
Oui, Abdel. En fait, moi, c'est juste Abd. Avec ma femme, on n'arrive pas à
Abdullah.
Être d'accord sur la sauce de la salade.
Quoi, la quoi là ?
C'est une question un peu débile.
T'as, répète là.
La sauce de la salade.
La sauce de la salade, ah.
Une sauce halal, ça coûte super cher, qu'elle n'est pas à mon goût, que j'aime pas. Et la sauce crudité nature, qu'elle se voit à Carrefour, il y a un peu de vin dedans. Halal ou pas ?
Alors, bien sûr que à partir du moment où
moi,
un produit,
j'adore la question, je peux vous dire,
hein. Un produit où il y a du vin dedans, c'est pas halal. Hein, le vin est interdit en petite ou en grande quantité, qu'elle enivre ou pas. Hein, le prophète dit ma askara kathiruhu fa qaliluhu haram. Ce qui enivre en grande quantité est interdit en petite quantité. Donc à partir du moment où il y a une quantité, qu'elle soit infime ou importante, de vin qui vient donc qui est en plus impur. Et vient souiller la nourriture. C'est comme si que voilà, si on compare ça, on avait uriné. Imagine, on avait uriné dans ta sauce. Tu ce que tu vois, même oui. Si une goutte, même s'il y a une goutte dedans, tu vas pas la manger. Eh bien, oui, le vin est une impureté comparable à l'urine ou au vomi ou bien au l'excrément. Ouais. C'est la même nature religieuse qu'on appelle l'impureté. Al-najasa. Enfin, al-khamr najasa. L'alcool est une impureté. Donc imagine si ne serait-ce qu'une goutte d'urine tombe dans ta sauce, tu la manges ou pas ? Non, tu la mélanges, tu la manges pas, non. Tu la jettes à la poubelle. Eh bien là, c'est pareil. L'alcool dans n'importe quel produit rend le produit illicite, quel que soit le produit. Que ce soit une sauce vinaigrette, un gâteau, de n'importe quoi. S'il y a du vin, de l'alcool, c'est pas autorisé, c'est pas halal.
D'accord. Non, c'était juste voilà. Pour ça. Et juste pour te dire, même je suis fan de toi. Je vais dire à tout le monde, peut-être tout la calasse. Alain, je suis fan de toi quand tu es à la radio.
C'est gentil, Akhoya. Ahabbak Allah, il a dit Ahabbak Tani Majli.
MashaAllah, Kimmel, Wawas,
Allah. Allah, je sais que c'est Allah. Ahabbak Akhoya.
Farakak Nom, Inch'Allah.
Allah, nous sommes. Merci beaucoup.
Bonjour à toi et à tout le monde, Inch'Allah.
Eh bien, c'est gentil.
Merci.
Au revoir, Philippe.
Alors, Amin, au revoir. Alors, on a Abdelkader maintenant. Abdelkader, bienvenue.
Ah, là, c'est bon, là. Abdelkader, ça va.
Allô, salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah.
كيف حالكم امام عبد العالي
مرحبا اخي عبد القادر مرحبا انت كود عبد القادر vas-y pose nous ta question
présentement les deux tours mobiles à la avec vous je goûte à la avec Stibra au Kamel.
Oui, on parle il faut marier les jeunes quand ils font des bêtises, il faut qu'ils font la tauba astaghfirullah et on les marie tout de suite, on se trouve.
Exact.
Voilà, il ne faut pas attendre trois mois de viduité, je ne sais pas quoi, ce délire-là, n'importe quoi.
Exact.
Non. Tu vas dire, Akhoya, est-ce qu'il y a des questions ? Alors, en français, essaye de parler en français pour qu'on puisse comprendre.
L'héritage.
D'accord, vas-y, bismillah, je t'écoute.
Regardez, bismillah. Il y a un Nekrobabam, carrément. Ça veut dire qu'ils ont renié leur père. Leur
d'accord.
père, c'est pas leur géniteur.
Ils ont coupé tous les liens familiaux avec lui, c'est ça?
Exactement.
D'accord. Ensuite.
Non seulement ça, mais genre, ils ont été élevés avec les amants, que lui, il a rien fait. Carrément renié. Ça veut dire même quand il est décédé, rien.
Ah, quand il est décédé, lui?
Quand il est décédé, ils sont pas venus, c'est pas notre père, on le reconnaît pas, c'est comme Heisha, c'est comme n'importe quel, même pas indifférent.
Il faut savoir qu'il y a énormément de cas et qu'on ne peut pas forcément à chaque fois diaboliser les enfants ou les parents par rapport aux situations parfois détestables qu'il peut y avoir entre eux. Il y a des fois des motifs valables, des fois des motifs qui ne sont pas valables, et on peut pas généraliser en disant que les filles sont mauvaises ou que le père est mauvais. C'est du cas par cas. Il faut essayer de savoir pourquoi ces filles-là, elles ont eu cette relation, on va dire cette non-relation avec leur père, et pourquoi ceci cela. Mais on va pas se poser la question aujourd'hui. Tu as dit que c'était une question sur l'héritage. Et donc le père il est mort.
Par rapport à l'héritage, normalement ils héritent pas.
Ah, d'accord. Normalement, ils n'héritent pas. D'accord.
Bah oui.
Alors, effectivement, il faut savoir, est-ce que dans le Coran, il est mentionné que si des enfants n'ont pas été à la hauteur de leur obligation de bienfaisance, de respect des parents, etc., est-ce que l'islam leur prive de l'héritage? Bien, la réponse est non. L'islam ne prive pas l'héritage des enfants qui n'ont pas été dignes de leurs parents ou n'ont pas été à la hauteur par rapport au respect qu'ils devaient.
Ils ne sont pas déshérités.
Ils ne sont pas déshérités. Les savants se sont penchés sur la question. Il n'y a que si il est prouvé que l'enfant n'est pas le fils de son père. Mais si à partir du moment où il est le fils de son père, il hérite. Il y a une autre raison qu'il n'hérite pas, c'est que si l'enfant n'a pas la religion de son père. C'est-à-dire que, par exemple, le père, il est musulman et l'enfant, il est converti, je sais pas moi, témoin de Jéhovah, ou là, il est devenu athée, par exemple, Golakana, mais je crois pas en Dieu. À ce moment-là, effectivement, c'est un argument chez les juristes.
Voilà.
C'est un argument chez les juristes qui justifie de ne plus lui accorder son héritage. Mais, la relation indigne des enfants vis-à-vis de leur père ne déshérite pas les enfants. Est-ce que vous avez compris?
Oui, j'ai compris. Le père, son héritage, ici en France, c'est bon, a été conclu. D'accord?
Donc les enfants, ils ont touché leur héritage?
Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien de skin. Il travaillait, il travaillait dans le BTP.
Ça, d'accord. Bon, okay. Il n'a pas laissé grand-chose, c'est ça que tu veux me dire.
Voilà. Sa femme, elle a touché un petit peu, après elle a touché la retraite de reversion.
Alors ça n'a rien à voir avec l'héritage. Ce que la femme va toucher, ce n'est pas l'argent de son mari, c'est son argent à elle. C'est que ce que l'État lui donne à elle, pas à lui. C'est pas à lui qu'après héritage pour sa femme, non. Toutes les rentes, toutes les assurances vie, etc., c'est l'État ou les assurances qui reversent au ce qu'on appelle aux bénéficiaires. Les bénéficiaires d'un bien de l'État ou de l'administration n'est pas considéré comme un héritage.
N'est pas à lui, ce qui lui est resté.
D'accord. À la Koulihal. Ensuite, c'est quoi ta question?
La question, c'est ce qu'il va laisser au bled. Eux, ils veulent leur récupérer. Ceux, alors qu'ils sont des Français, ils mangent du porc, ils veulent aller récupérer le bled.
Alors la question, Afouyal Karim, est-ce qu'ils sont musulmans, ces gens qui mangent du porc?
Non.
Attendez, il faut qu'on les interroge. Est-ce que vous croyez en Dieu, à la religion de Mohammed? Parce qu'il y a des gens qui mangent du porc. Attendez. Si vous leur posez la question, croyez-vous en Dieu ou êtes-vous de la religion de l'islam? S'ils disent non, ils ne peuvent pas, en principe, hériter de leur père. S'ils disent, nous, on mange du porc, mais on est quand même musulmans, parce qu'il est possible de manger du porc et d'être musulman, hein. C'est pas incompatible que se dire musulman et de manger du porc. Manger du porc, c'est un péché parmi d'autres. C'est pas plus grave que la médisance ou la fornication ou boire de l'alcool, etc. Hein, moi, je trouve étonnant que des gens soient écœurés et exclus, voire même excommunis de l'islam, les gens qui mangent du porc, mais ils ne disent rien concernant quelqu'un qui, par exemple, boit du vin ou a des relations hors mariage. Pour eux, ça, c'est pas grave, mais manger du porc, c'est très grave. Non, manger du porc ou boire de l'alcool, etc., tout ça, c'est grave. C'est aussi grave, ce sont des péchés que Dieu a interdits. Mais est-ce que Commettre des péchés exclut la personne de la religion. Non, que seulement si lui déclare, dit que je ne suis pas musulman, je ne crois pas en Dieu, ou je ne crois pas à Mohammed, ou je suis chrétien, ou je suis athée. Là, à ce moment-là, il ne l'est plus. Il n'est pas. Mais c'est pas en mangeant du porc que ça fait de lui quelqu'un qui n'est pas musulman. Attention.
Pas si concernant les hommes ou même les femmes.
Tout, bah, pourquoi il y aurait une différence entre les hommes et les femmes? C'est pareil.
La femme, comme on sait, suit la religion de son mari.
Non. Il y a pas la femme, elle suit pas la religion de son mari. La preuve, c'est que Sayyidina Nuh et Sayyidina Lot avaient des femmes qui n'étaient pas croyantes. Et Rabbil Alamin, dans le Coran, il les cite en disant وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا الصَّالِحِينَ فَخَانَتَاهُمَا فَلَن تُغْنِيَ عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Donc ces femmes-là, le Noé et de Lot, étaient des mécréantes qui vivaient avec un mari, un prophète de l'islam, qui était Noé et Lot. Et donc cela n'a pas empêché qu'il soit considéré comme non musulman. Donc elle ne suit pas la religion de son mari, elle suit sa religion à elle.
D'accord. Ben voilà ce que pouvez-vous répondre l'imam Abdelali Abdelkader. Merci pour votre question. On a Soad qui est avec nous au 01 53 48 3000. Soad, bienvenue.
Bonjour
Soad.
Je voudrais parler à...
Fadal, on est là avec vous. On vous écoute.
Ah, d'accord. Salam alaikum.
Wa alaikum salam.
J'ai deux petites questions à vous poser par rapport à la zakat.
Allez-y. Ne mettez pas des titres aux questions. Posez la question directe.
Moi, j'ai une petite retraite au bled et puis je voulais la donner, enfin, si c'est possible, à ma nièce qui travaille pas.
Donc, la retraite, toute la retraite ou bien la zakat de la retraite?
Non, la zakat.
Ah, la zakat, d'accord. Ouais. Ouais, donc vous avez un petit capital en Algérie, c'est ça? Et vous voulez la donner à qui?
Non, mais moi, quand j'y vais au bled, là, je tire cet argent.
Comment? Vous avez quoi?
J'utilise cet argent.
Ah, vous l'utilisez, d'accord.
Oui, donc je ne sais pas si c'est... est-ce que j'ai le droit à la zakat?
Est-ce que vous êtes dans l'obligation, c'est-à-dire est-ce que vous êtes
de vous acquitter de
la zakat de cet argent-là? Alors, madame, ça dépend. Est-ce que cet argent-là, elle a un seuil déjà de zakatable? C'est-à-dire, est-ce que vous avez au moins l'équivalent de, quelque chose comme 3 500?
C'est quand je vous dis la vérité, je sais quand,
36 millions. 36 millions, ça fait combien en euros?
Ce mois-ci.
2500 euros, c'est ça? 2500 euros. 2500 euros n'est pas assujetti à la zakat.
C'est pas zakatable.
Non. C'est pas zakatable. Donc il n'y a pas de zakat à payer. Mais vous pouvez, hein, vous donner de l'argent à votre neveu, à n'importe qui, même à vos enfants.
Parce qu'elle ne travaille pas. Et puis, ils m'ont dit au bled, il faut donner, quand on a 56 millions, je peux donner millions.
Alors, attendez, madame, un instant. C'est vrai que d'un pays à l'autre, la zakat n'est pas définie de la même manière, Philippe. En France, nous, on dit qu'on parle de 85 grammes d'or, qui est aujourd'hui équivalent à peu près à 4 000 euros. Donc, si vous avez de moins de 4 000 euros en France, vous n'êtes pas assujetti à la zakat. En Algérie, il y a des ulama qui ont défini le nisab, c'est-à-dire le seuil minimum qui impose la zakat. D'accord? Qui rend la zakat, l'argent zakatable. Comme imposable. Donc il faut interroger les ulama en Algérie pour savoir si sur 50 millions de dinars, est-ce qu'il y a la zakat à verser ou pas. D'accord? S'ils vous disent oui, bah vous vous en acquittez, vous pouvez la donner à votre nièce. Oui, la nièce vous pouvez, si elle est pauvre. Si vous avez une nièce
Qui
est pauvre.
Elle vit avec sa mère, mais bon, elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus, elle n'a rien du tout.
Madame, la question est-ce que cette fille-là meurt de faim, c'est-à-dire en vivant chez sa mère?
Non,
ça veut dire qu'elle n'est pas pauvre. Elle est sous la tutelle de sa mère, qui n'est pas pauvre, sa mère.
Oui.
Sa mère n'est pas pauvre.
Elle travaille, mais bon, elle...
Répondez-moi à la question, est-ce qu'elle arrive à joindre le debout? Il y a que Louis Chebaou, ils mangent, ils boivent, ils ont de quoi s'habiller.
Alors
on ne peut pas donner la zakat, ce n'est pas des gens pauvres alors.
D'accord, il n'y a pas de souci.
On donne aux pauvres. La zakat, on la donne aux pauvres.
Donc, moi, c'est par rapport au Ramadan. Nous avons une somme, l'argent à Abdelhad. Je ne donne pas en euros.
Oui, vous donnez en dinars, mais l'équivalent de 7 euros.
Est-ce que j'ai le droit?
L'équivalent de 7 euros par personne.
Oui, est-ce que j'ai le droit parce qu'ils disent que non, il faut payer ici?
Non, c'est possible en Algérie, il n'y a pas de problème. À partir du moment où elle arrive dans les mains d'un pauvre, c'est autorisé.
Si, franchement.
Ma fille, moi, je kiffe. Elle arrive dans les mains d'un pauvre. Vous comprenez ce que vous avez compris?
Là-dessus.
Même si c'est pas un musulman, elle arrive dans les mains. Écoutez bien, le seul critère, c'est que la main qui reçoit l'argent, ça soit la main d'une personne nécessiteuse, pauvre, qui ne peut pas se nourrir, qui n'a pas les moyens de subvenir à ses besoins. Comprenez ça? Adam Akane. Voilà. Je répète, la misère n'a pas de religion, n'a pas de race, n'a pas d'origine, et n'a pas d'espace. N'importe quel endroit dans le monde, vous arrivez à faire parvenir votre argent dans les mains d'un pauvre, où qu'il soit sur Terre, c'est autorisé.
Nous, on n'est pas, on ne fait pas la différence entre pauvres. Non.
Merci, ma soeur.
Merci, monsieur. Souad, pour votre question. Voilà, dans un instant, Imam Abdelali, vous allez évoquer un nouveau personnage, il s'appelle Ahmed Baba.
Ahmed Baba, oui, c'est drôle ça.
Ouais, ouais, on va voir qui c'est. Non,
on va voyager de l'Inde, parce qu'on était la dernière fois en Inde, chez la princesse ou la reine Radia, tu te rappelles, de l'Inde. Et on va voyager de l'autre côté, en Afrique subsaharienne.
Dans un instant, c'est l'islam au présent, jusqu'à 11h sur Beurre FM.
L'islam au présent revient dans un instant. Beurre FM, 10h, 11h, l'islam au présent avec Philippe Robichon.
Et chaque semaine, Imam Abdelali, vous nous proposez de raconter l'histoire d'un personnage. J'ai presque envie de dire que c'est un personnage récent pour une fois.
Écoute, tout simplement parce que j'ai voulu associer...
C'est le 16e siècle, c'est rare qu'on évoque des personnages du 16e siècle. Ouais.
Parce que c'est en même temps une période... où a débuté un drame de l'humanité, un véritable génocide, un véritable crime contre l'humanité qu'on appelle les traites négrières. C'est à ce moment-là qu'a débuté ce phénomène où est-ce que les populations subsahariennes ont fait l'objet de commercialisation des humains. Alors, ça n'a pas débuté à ce moment-là proprement dit, puisqu'il existait déjà dans le monde arabe, dans le monde musulman, ces pratiques de commerce des esclaves, puisque déjà les dynasties andalouses, abbassides, etc., pratiquaient ça. Mais attention, c'est pas eux les premiers qui l'ont fait. Avant déjà, les Romains, dans l'Antiquité, l'esclavage était, hein, quand on raconte l'histoire de ce fameux rebelle, comment il s'appelle là? Le Romain là, qui s'est rebellé là, le gladiateur. Tu es sûr tu vas me le trouver en moi.
Spartacus,
voilà. Montre bien que la civilisation romaine était imprégnée parfaitement de l'esclavage et que c'était monnaie courante que d'acheter, de vendre des personnes qui étaient la propriété d'autres personnes. Voilà. Donc l'islam a hérité de cette réalité mondiale. Elle n'était pas propre à l'islam, ce qui explique pourquoi il était compliqué pour le prophète alayhi salatu wassalam de se soucier immédiatement d'affranchir les hommes de l'esclavage, puisque d'abord le prophète est un prophète pour guider les gens pour leur salut après la mort, pour leur salut, pour qu'ils puissent aller au paradis, obtenir la bénédiction de Dieu. Ce que le prophète a fait, c'est qu'il a encouragé, bien entendu, l'affranchissement des esclaves et l'abolition par la méthode souple, la méthode douce, qui consiste à affranchir, jusqu'à qu'il n'y en ait plus. Mais malheureusement, après lui, des conquérants musulmans, qui se disaient musulmans, ont envahi des pays et ont mis sous le joug de l'esclavage des hommes libres. Alors que Sayyidina Omar avait été clair là-dessus, puisqu'il dit « Ma tastabattum un-nas wa qad waladatum ummahatuhum ahrara » Comment vous pouvez vous autoriser à rendre esclaves des gens qui sont nés libres?
Alors, Imam Abdelali, qu'est-ce qu'on sait d'Ahmed Baba déjà? Où est-ce qu'on situe sa naissance?
Alors, Ahmed Baba est un personnage qui est né en plein milieu du désert, le désert du Mali, le Sahara, le fameux Sahara al-Gharbi, le grand Sahara occidental, dont une grosse partie est en Algérie, au Mali, au Maroc, en Libye, en Égypte. Ce grand désert qui sépare l'Afrique du Nord de l'Afrique du Sud, eh bien, lui, il est né en plein milieu de ce désert, dans un petit village qui s'appelle Arawan. Un petit village qui se trouve à quelques dizaines de kilomètres de la ville de Tombouctou.
Oui, c'est pour ça qu'on l'appelle le savant de Tombouctou.
Voilà, c'était le savant de Tombouctou parce que, effectivement, peu de temps après sa naissance, son père, qui était un grand savant déjà, décide de venir s'installer à Tombouctou, où est-ce qu'il va répandre et revivifier les sciences de l'islam et répandre les sciences de l'islam, puisque comme on l'a rappelé, notre rubrique, notre thématique consiste à parler des personnages qui, à travers les siècles, vont revivifier, répandre les sciences de l'islam à travers les mondes, à travers les différents territoires dans le monde. Et donc ce personnage, Ahmed Baba, est né donc au Mali, et grandi à Tombouctou, où est-ce qu'il commence à apprendre le Coran intégralement, il apprend des milliers de hadiths, il devient un érudit. Sauf que, au même moment, en 1591, il y a un royaume qui est très puissant, qui est extrêmement, tellement puissant qu'il arrive à vaincre les Portugais, les Espagnols, il empêche toutes les invasions, c'est le royaume saïdien, Ad-Dawla Saadiyya, du Maroc, qui se trouve au Maroc. Ad-Dawla Saadiyya, oui Philippe, est une dynastie qui va environ plus de 150 ans régner au Maroc, au 16e siècle, tout à fait Philippe.
Ils sont moins connus finalement que...
Les Saïdiens.
Ils sont moins connus que plein de dynasties marocaines.
Tout à fait. Et non seulement ils ne sont pas connus, ouais, mais en plus, ils vont surtout se faire connaître à travers une bataille qui va elle aussi avoir lieu la même année, en 1591, entre le grand royaume de Songhai. Le royaume de Songhai, c'est le royaume qui englobe à la fois le Maroc, mais aussi la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, toute la région de l'ouest de l'Afrique est un seul et même royaume qu'on appelle le royaume Songhai au sud et le royaume saïdien, qui finalement vont fusionner parce que les Saïdiens vont envahir le Mali. Ils vont envahir ce royaume et anéantir ce royaume de Songhai. Donc ils vont prendre le pouvoir sur cette région-là subsaharienne. Donc le nord va prendre le pouvoir sur le sud. Et la même année, les Portugais vont tenter de coloniser le Maroc et une grande bataille va avoir lieu entre les Marocains, le royaume de Songhai et les Marocains contre ces Portugais qui vont essayer de s'accaparer ce pouvoir-là. Mais alhamdoulillah que les Saïdiens, les Dawla Saadiyya va être aidé par les Ottomans, parce que je rappelle qu'au même moment, Philippe, le monde oriental, toute la partie orientale du Maroc, c'est-à-dire de l'Algérie jusqu'en Perse, jusqu'à l'Empire perse en Iran, est sous domination ottomane. C'est le sultan Souleyman le Magnifique qui règne, et son fils Salim, et ensuite Morad, etc. C'est pas moins de huit rois qui vont se succéder pendant la vie de Ahmed Baba, qui va lui vivre à cette époque-là au Maroc. D'abord une longue période de sa vie, de l'an 1591 jusqu'à l'an 1604 ou 1603, où est-ce qu'il va être enfin autorisé à revenir à Tombouctou. Mais pendant toutes ces années-là, Ahmed Baba va apprendre et acquérir le savoir islamique au Maroc, à Fès d'abord et ensuite à Marrakech, et c'est là-bas où est-ce que il va devenir un véritable érudit, un phare de l'islam, et il va finalement être autorisé à revenir à Tombouctou. En revenant à Tombouctou, ouais, tu voulais dire quelque chose?
Non, pardon, vas-y. Allez-y, repartons à Tombouctou, Imam Abdelali.
Oui, Tombouctou. Oui. Tombouctou, lui, ce qu'il va faire là-bas, c'est un travail gigantesque. Il va faire de Tombouctou la capitale de l'islam de l'Occident. C'est là-bas où est-ce que, au début du XVIIe siècle, nous sommes donc en plein cœur de cette dynastie saïdienne, en 1603 jusqu'en 1627, donc 1603 au début du XVIIe siècle, Ahmed Baba va répandre, va rédiger, va conserver des milliers d'ouvrages qui vont jusqu'à notre époque devenir un patrimoine mondial protégé par l'UNESCO de l'humanité, un patrimoine mondial de l'humanité qui est aujourd'hui protégé par l'UNESCO, puisque ces milliers de manuscrits qui auront été réalisés et rédigés par Ahmed Baba et ses élèves et ses disciples vont permettre à s'assurer que Tombouctou n'est pas une ville de Touareg, de Bédouins, d'ignorants, d'ignards, de gens qui ne connaissent rien, mais une véritable ville d'érudits, de savants qui vont véritablement jouer un rôle de phare dans la province. propagation de l'islam en Asie, en Afrique subsaharienne. Et notamment, il va même avoir des disciples qui vont venir chez lui chercher le savoir, qui vont venir de Chengirt. Vous savez, Chengirt, c'est la capitale aussi en Mauritanie de la science islamique. Des savants qui vont venir du Maroc, de l'Algérie, de partout, pour acquérir le savoir à Tombouctou, des mains de ce grand cheikh Ahmed Baba qui mourra en 1627 de l'ère chrétienne.
Il y a encore aujourd'hui ce patrimoine à Tombouctou qu'on peut aller voir dans des bibliothèques.
Tout à fait.
Il y en a plus d'une trentaine.
Voilà, c'est énorme.
Et lors du dernier coup d'État, il a fallu les protéger, puisque c'était la convoitise. Mais on peut les voir aujourd'hui.
Tout à fait. Même l'ACMI, le fameux Al-Qaïda, les islamistes ont voulu détruire ce patrimoine parce qu'ils considéraient qu'il était rempli d'hérésies, parce que ce sont aussi des textes souffrants. Ce sont des textes spirituels, etc. Et ça, vraiment, ça ne plaît pas beaucoup aux terroristes et aux barbares de l'ACMI, donc de ce qu'on appelle Al-Qaïda au Maghreb islamique. Et donc, effectivement, il a fallu envoyer l'armée française, il a fallu que le Mali et d'autres pays d'Afrique se mobilisent pour protéger ce patrimoine. Bon, on s'en faut que ils ont quand même détruit des mausolées, énormément de mausolées de ces saints qui, avant d'être des saints, c'étaient des savants, des érudits de cette région de Tombouctou, la région de Gao, la fameuse région de Gao, du royaume de Gao. Même il y avait même un royaume à l'époque. Et ce royaume va être les circonstances. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'Ahmed Baba va profiter des circonstances historiques de l'invasion de son pays par les Marocains de la dynastie saïdienne qui vont lui permettre d'immigrer au Maroc pour chercher le savoir et devenir l'un des plus grands érudits de son époque.
Alors Imam Abdelali, quelle était la philosophie d'Ahmed Baba?
Ahmed Baba était un homme qui était un homme très rationnel, un scientifique, c'est un homme de science, un homme de savoir, et qui était d'abord de l'école malikite, traditionnaliste, attaché aux préceptes de la sunna et de la tradition prophétique, et qui, bien entendu, était pour tout son travail était pour empêcher le déclenchement de la traite négrière par la condamnation de l'esclavage. Il a écrit même des ouvrages entiers sur comment Allah Azza wa Jal désapprouve totalement que des hommes puissent être l'approprier d'autres hommes, et il va écrire des ouvrages entiers là-dessus. Et sa philosophie, et pendant toute sa vie, ça va être un militant contre l'esclavage, mais malheureusement elle ne portera pas ses fruits, puisque tous les siècles qui vont suivre après, du 17e, 18e et 19e siècle, ça ne sera que des millions, voire même on parle de 17 millions, rien que la traite transatlantique, qui vont emporter des millions d'habitants de cette région-là, du Sénégal, de l'Angola, de la Guinée, du Mali, etc., vers l'Amérique, le nouveau continent. Mais il faut savoir aussi qu'il va y avoir une traite orientale, et tout ça va être effectivement orchestré par la France. C'est la France qui va être derrière, avec des navires débarquant et partant de Nantes, où est-ce qu'elle va organiser ce trafic d'humains entre l'ancien, le vieux continent et le nouveau continent. Et malheureusement, c'est Colbert avec bien sûr les rois de l'époque qui régnaient au XVIIe siècle, Louis XIV, etc., qui vont donc soutenir cette traite négrière jusqu'à l'avènement de Napoléon. Avant Napoléon, déjà la traite négrière est abolie parce que les États-Unis ont réussi à imposer l'abolition de l'esclavage, mais Napoléon va rétablir lui la traite négrière et au XIXe siècle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui aucune rue en France porte le nom de Napoléon. Il n'y a pas la rue Napoléon. T'as remarqué ça, Philippe? Tout simplement parce que Napoléon n'est pas le personnage humaniste qui lui donne l'honneur qu'une rue en France porte son nom, puisque il n'a pas honoré la France en rétablissant bien sûr l'esclavage.
Alors les Marocains aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils revendiquent de cet héritage d'Ahmed Baba? Il le considère comment?
Bah, eux, ils considèrent que Ahmed Baba est surtout venu chercher la science chez eux. Il n'est pas le référent chez eux. C'est au contraire le disciple des savants marocains de l'époque, de la dynastie saadienne. Et donc, non, ils n'ont pas beaucoup de considération vis-à-vis de ce personnage, mais tout le monde lui reconnaît le énorme travail qu'il a fait pour la propagation de l'islam au Mali. Le Mali est un pays musulman, il faut savoir, mais aussi le Niger à côté. Donc, toute la région du fleuve du Niger, qui part de la Guinée Conakry jusqu'au Niger inclus, est une région islamisée par, entre autres, des personnages comme une islamisation pacifique, bien sûr. Il ne s'agit pas d'une islamisation par la force, mais par le savoir, par la conviction, par la science et par la propagation du savoir islamique que Ahmed Baba est parti acquérir au Maroc, à Fès et à Marrakech. Voilà, en gros.
Il meurt où ?
Il meurt à Tombouctou.
D'accord.
Il est enterré.
Aujourd'hui, il est enterré là-bas.
Il est enterré à Tombouctou.
Il y a quelque chose où on peut.
Il y a un mausolée, oui, bien sûr. Un mausolée. Il y a une mosquée. Il y a tout un ensemble de choses. Et puis, il y a cette énorme bibliothèque, ce musée du savoir islamique, des sciences islamiques, avec des milliers de manuscrits qui ont été rédigés par cette, on va dire, impulsion faite par ce grand cheikh qui s'appelait Ahmed Baba. À Tombouctou.
Je ne sais pas où ils en sont du travail de numérisation, parce qu'ils sont en train de les numériser. Est-ce que c'est terminé ou pas?
Non, je ne pense pas. C'est parce que c'est énorme. Il y a beaucoup de travail à faire et en plus, il y a beaucoup de restauration aussi. Beaucoup de manuscrits ont été... se sont effrités, se sont détruits. Donc il y a des manipulations extrêmement délicates à mettre en place pour éviter que ces manuscrits, ces livres qui ont quand même 4 siècles, 4-5 siècles, c'est pas rien. Donc il faut faire attention. Faut protéger ce patrimoine et il est tout à l'honneur bien sûr que de mettre les projecteurs sur ce travail qui a été fait par ces savants qui ont relayé cette religion à travers le monde et notamment en Afrique subsaharienne.
La semaine prochaine, un nouveau personnage, Imam Abdelali. Alors pour tous ceux qui n'ont pas pu passer à l'antenne et qui ont des questions à vous poser, ils peuvent vous appeler sur votre téléphone portable.
Tout à fait, donc c'est le 06 29 25 35 00. Je répète, 06 29 25 35 00. N'hésitez pas à m'appeler si vous avez une question. C'est gratuit, il y a pas de contrepartie.
C'est le coût d'un appel qui est compris dans votre forfait,
même pas,
souvent.
Il n'y a pas de numéro, c'est pas un.
Non, mais quand je dis c'est le prix d'un appel qui est compris dans votre forfait.
Donc voilà. C'est zéro.
Donc vous n'êtes pas surtaxé, Imam Abdelali.
Je ne suis pas surtaxé.
Ah bon?
Il y a déjà les gens qui commencent à m'appeler. Voilà. Donc.
Il y en a qui vous appellent pas tout de suite, vous restez avec nous. Vous faites Jumu'ah où aujourd'hui?
Je ne fais pas le Jumu'ah. Il n'y a pas de Jumu'ah aujourd'hui. De la semaine dernière et cette semaine-là, les Jumu'ah sont rares puisque le confinement impose la fermeture. Beaucoup de lieux de culte sont restés fermés. Et même s'il y a des mosquées où il y a des prêches, c'est souvent devant 4-5 personnes et avec sur une caméra qui est en direct sur Facebook. Donc beaucoup d'imams procèdent de cette manière-là pour éviter les rassemblements dangereux et suicidaires dans les mosquées. Pour éviter ça, ce sont simplement des enregistrements. Donc n'hésitez pas d'aller sur internet, consulter l'imam de votre mosquée ou même d'un autre mosquée, une mosquée que vous aimez bien. Pour il y en a un, c'est Tarek Oubrou, il est très très bon. Il est tous les vendredis en direct au moment de la khotba de Jumu'ah.
Allez, dans un instant, vos petites annonces. On parlera de solidarité, Imam Abdelali, parce que c'est le moment où on a besoin de vous et vous pourrez passer vos petites annonces au 01 53 48 3000.
Charmant.
Retrouvez l'islam au présent tous les vendredis de 10h à 11h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.